Alors nous sommes toujours avec l'Apocalypse ce soir. Est-ce que vous avez lu les chapitres 8 et 9? On est dans cette série « Comprendre l'Apocalypse ». Et il y en a des choses hein, dans l'Apocalypse. Mais on veut lire l'Apocalypse ce soir et vraiment regarder ce que l'Apocalypse dit. Et non pas ce qu'il ne dit pas. Parce que on veut, malheureusement, bien souvent, on fait dire à l'Apocalypse des choses qu'il ne dit pas. Et vous savez, il y a des raccourcis, hein? Un petit peu comme quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible et qui vient dire « la Bible dit que ». C'est facile de dire « la Bible dit que ». Montre-moi où ça dit ce que tu prétends que ça dit. Parce que sinon, on se retrouve avec des gens qui connaissent rien à la Bible et qui vont nous raconter ce que la Bible dit. Et vous avez remarqué que des fois, c'est ceux qui en connaissent le moins qui en parlent le plus. Et des fois, il y en a qui ne sont même pas chrétiens, qui ne connaissent rien à la Bible et qui vont dire « oui, oui, les chrétiens, ils disent ça, ils pensent ça, la Bible dit ça ». Non, non, la Bible, on ne veut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et c'est pour ça qu'on la lit, c'est pour ça qu'on l'étudie et c'est pour ça qu'on veut proclamer ce qui est vrai. Et on veut faire la même chose avec l'Apocalypse parce que malheureusement, bien souvent, eh bien, on peut prétendre toutes sortes d'affaires en disant « oui, oui, c'est marqué dans l'Apocalypse ». Attends, attends, c'est marqué où ? Et vous savez, parmi les phrases, les idées les plus répandues, bien souvent, on se rend compte que ce n'est même pas marqué. Et on fait dire à l'Apocalypse ce qu'il n'a jamais dit. Alors nous, c'est pour ça qu'on prend le temps de lire tranquillement. Hein, on y va, on est juste au chapitre 8 là. Puis ce soir, on va faire juste le chapitre 8 et le chapitre 9. On va y aller tranquillement parce que quand on prend le temps, eh bien, ça nous permet de bien rentrer dans le texte et essayer de comprendre ce que dit le texte. Ne pas aller au-delà de ce que dit le texte, mais de dire, bon, c'est quoi ce message? Ça veut dire quoi? On se souvient, je l'avais dit en introduction, mais je le répète, que l'Apocalypse, ça veut dire soulever le voile, et que c'est une révélation. Et cette révélation n'est pas une révélation de choses terribles et qui fait peur, mais c'est au contraire une révélation de choses formidables et extraordinaires qui encourage, qui exhorte et qui nous amène à nous réjouir. L'Apocalypse n'est pas un livre qui fait peur. L'Apocalypse est un livre qui réjouit, qui encourage, qui console. Quand l'apôtre Jean écrit l'Apocalypse, il l'écrit à des chrétiens qui étaient persécutés. Et quand ils reçoivent l'Apocalypse, ils ne se sont pas dit « aïe, 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 qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ?» Il leur en tombe déjà beaucoup sur la tête au moment où ils lisent ce texte. Ils sont déjà persécutés. Mais quand ils lisent l'Apocalypse, ils se disent « waouh, quelle bonne nouvelle !» Ça fait plaisir de lire l'Apocalypse. Vous savez, les premiers lecteurs de l'Apocalypse se disaient « tu sais, tu passes par des temps difficiles, lis l'Apocalypse, ça va te faire du bien. Ça va t'encourager. » Nous, aujourd'hui, on n'a plus trop ce style de langage. Mais c'est comme ça que ça marchait. Parce que quand on lit l'Apocalypse, ça encourage. Pourquoi ? Parce qu'on voit que Dieu est en contrôle et que c'est l'agneau de Dieu qui est vainqueur, surtout l'adversaire. Et que même s'il peut y avoir des temps durs, des persécutions et des temps difficiles, à la fin, il y a un triomphe, il y a une victoire, il y a un salut qui est là. Et c'est un livre qui encourage. Quand Jean a cette vision du trône de Dieu, on l'a vu au chapitre 4 de l'Apocalypse, ben, c'est des choses formidables de dire « waouh, Dieu est assis sur le trône ». Et quels que soient les événements qui peuvent se dérouler sur la surface de la terre, le trône de Dieu ne chancelle pas. Il reste en contrôle. Il n'y a rien qui n'arrive qui ne soit sous son contrôle. Il est le Dieu de l'univers. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire. Alors, il y avait les sept épîtres aux sept églises, et il y avait ce livre qui était scellé de sept sceaux, et personne n'en était digne, et l'agneau de Dieu est digne d'ouvrir ce livre de sept sceaux. Mais voilà, à l'ouverture de chaque sceau arrive un malheur, ou plutôt, on va dire, un fléau, une catastrophe. Avec les quatre premiers sceaux, il y avait quatre cavaliers qui les accompagnaient. Et ces cavaliers-là, donc, à chaque fois qu'ils sortaient, il arrive un malheur. Et on dit, bon, ben, on a vu les six sceaux, on arrive au septième aujourd'hui. On va dire, bon, une fois que les sceaux vont être ouverts, les malheurs sont finis. Non, parce qu'après, c'est les trompettes. Et on va voir qu'à l'ouverture, eh bien, du septième sceau, commencent les sept trompettes. Et à chaque trompette correspond aussi un fléau. On peut lire ça ensemble dans Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Et il ouvrit le septième sceau. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ce silence fait beaucoup parler, hein, je ne sais pas. Il y en a qui disent, comment ça, un silence d'une demi-heure? Ça veut dire quoi ça, un silence d'une demi-heure? Est-ce qu'on est capable, nous, d'avoir un silence d'une demi-heure? Et n'oubliez pas que juste avant, il était question d'une foule que personne ne pouvait compter. Et il y a un silence d'une demi-heure ici. Déjà, au niveau du temps, une demi-heure, c'est pas forcément, certains vont dire que ce n'est pas forcément un 60 minutes ici. Déjà, il est dit environ. Mais chez Jean, quand il est question de l'heure, c'est généralement pour signifier quelque chose de critique. Quand on est dans Jean chapitre 2, verset 4, par exemple, Jean chapitre 2, verset 4, il est dit, Jésus répondit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Et quand il dit « Mon heure n'est pas encore venue », il ne fait pas référence à une heure particulière ici, mais à un moment critique, à un temps spécial. Et on a la même chose dans la première épître de Jean, donc ça c'est un petit peu juste avant l'Apocalypse, première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, première épître de Jean, chapitre 2, verset 18, il était dit aussi « C'est la dernière heure ». Et on comprend que quand il parle de la dernière heure ici, il ne fait pas référence à une heure parmi les 24 heures, mais à un temps, à un moment particulier. Alors, certains considérant cela vont dire, bon, la demi-heure ici fait donc référence à ce temps critique, mais sauf qu'on n'a pas une heure complète. Ce n'est pas l'heure, ce n'est pas la dernière heure, c'est la demi-heure, c'est la moitié du temps critique. Et pourquoi c'est la moitié du temps critique? Ben, comme pour nous dire que ce n'est pas fini. Qu'on est juste ici, on n'est pas encore arrivé à la toute fin de l'histoire. Même si le septième sceau vient d'être ouvert et le septième sceau annonce la fin, eh bien, il y a cette pause qui est faite pour dire que l'ultime fin n'est pas encore là. Et ce silence, bon, peut avoir aussi beaucoup de connotations théologique, hein. On sait toutes ces paroles où il est dit par exemple dans les psaumes qu'il faut faire silence devant Dieu. Ce silence est une marque de respect, puis aussi qui reconnaît la grandeur, la souveraineté de Dieu, que toute bouche est fermée, puis qu'on n'a rien à dire devant lui. Et ce silence aussi annonce quelque chose de tragique qui arrive, et le fait que ce soit la moitié montre que donc on n'est pas encore arrivé au bout. Mais ce silence parle aussi de la patience de Dieu, dans le sens que Dieu patiente et il y a comme une pause qui est faite. Et pendant, parce que ce silence se trouve au ciel, et pendant la moitié d'un temps, eh bien, on se retrouve dans un mode où il ne se passe plus rien. Alors que, on a vu qu'avec les six premiers sceaux, il se passait toutes sortes de choses et de choses assez catastrophiques. Là, c'est comme s'il y avait une pause. Le temps est suspendu, il ne se passe plus rien pendant la moitié d'un temps, pendant la moitié d'une heure environ. Et ça nous parle de la patience de Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre, par exemple, nous parle de ceux qui s'impatientent et qui disent « Mais où est le retour du Seigneur ?» On nous parle du retour du Seigneur, il n'est toujours pas arrivé. Déjà, à l'époque de l'apôtre Pierre, certains avaient ce genre de discours et Pierre répond « Que c'est parce que Dieu fait preuve de patience envers nous, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. » Et là, quelque part, ce silence qui est dans le ciel, eh bien, montre que Dieu met une pause pour justement donner l'occasion à certains de se repentir, et la suite du chapitre confirme un petit peu ce genre de lecture. Alors, on continue au verset 2. Parce qu'on a deux chapitres à faire. « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Et là encore, ça peut être assez mystérieux, s'il y en a qui sont curieux, puis il y en a quand ils lisent l'Apocalypse, ils se posent toutes sortes de questions, puis il y en a d'autres qui ne se posent pas. Mais ici, on devrait se dire, les sept anges. C'est qui ces sept anges-là? Ici, on a un article défini. Il ne s'agit pas de sept anges indéfinis, mais il s'agit des sept anges. Alors, ces sept anges, ben, écoutez, on sait trop rien. L'apôtre en parle comme si ces sept anges étaient clairement identifiés, mais pour nous, on en connaît quelques-uns. Hein. Il y a des anges qui ont des noms et qui ont un rôle particulier dans l'histoire et bien de l'humanité, qui sont intervenus, hein, que ce soit Michel, Gabriel, ainsi de suite. Mais ici, on a les sept anges. Alors, d'autres écrits ont voulu un petit peu aller plus loin. Par exemple, dans le livre d'Enoch, si vous avez entendu parler du livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe, on a même le nom des sept anges. C'est un petit peu comme quand on nous parle des mages. Hein, ça va être bientôt le temps où on va peut-être célébrer l'épiphanie et les mages qui sont venus apporter à l'enfant Jésus des présents. Eh bien, la tradition a donné des noms à ces mages-là, non? Hein, il y a Balthazar, Melchior et puis Gaspard. Ah oui, il ne faut pas oublier. Bon. Et là, ça fait pareil, les sept anges, la tradition, et dans les livres apocryphes, on va même donner des noms à ces sept anges pour dire que ce n'est pas des anges au hasard, mais il y a sept anges particuliers ici à qui on va donner sept trompettes. Nous, qu'est-ce qu'on peut dire ce soir avec ces sept anges? Ben, pas grand-chose, parce que l'Apocalypse n'en dit pas plus, mais nous montre qu'avec cet article défini, qu'il ne s'agit pas de sept anges inconnus, mais il s'agit de sept anges bien précis. Un petit peu comme quand il était question des 24 vieillards, il y en avait 24 qui étaient là. Maintenant, concrètement, ça correspond à quoi? Ben, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça marche. Hein. Nous, on est juste spectateurs d'une vision céleste. Ou quand il était question des quatre, quand il était question des quatre êtres vivants, bon, il y en a quatre qui sont là. Et ici, de la même manière, il y a sept anges qui sont là, à qui il est donné sept trompettes. Je vous rappelle que quand il y a eu l'ouverture des sceaux, à chaque fois qu'un cavalier parmi les quatre premiers sceaux, qu'un cavalier partait, c'était sous l'appel d'un ange qui disait « viens hein, », d'un être céleste, puisque c'était plutôt un être vivant, qui appelait le cavalier de l'Apocalypse. Et de là, de la même manière, c'est un ange qui va sonner de la trompette. Et j'avais insisté là-dessus pour dire que ça nous montre quoi? Ça nous montre que les fléaux, les catastrophes qui arrivent, eh bien, n'arrivent pas en dehors du contrôle de Dieu, mais que Dieu a le contrôle sur ces choses-là. Et qu'il y a même des fois aussi, enfin, ici clairement, quelque chose d'intentionnel, puisque c'est l'ange du ciel, céleste, parmi ces sept anges, qui sonne de la trompette, et le son de cette trompette amène un fléau. Alors, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. On ne peut pas dire plus que ce que le texte dit, mais ce qu'on peut comprendre, c'est que les prières des saints, c'est-à-dire les vôtres, les nôtres, les saints ici, c'est ceux qui sont sanctifiés, c'est les chrétiens, et bien que ces prières-là font partie de ce plan. Et font partie sont associés à cet encensoir d'or, et les prières de tous les saints, eh bien, sur l'autel d'or montent, eh bien, qui est devant le trône, et la fumée des parfums monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. Et on voit qu'ici, il y a un parfum qui monte avec la prière des saints. Et ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Et comment les premiers chrétiens ont compris ces phrases-là? Ils ont compris que leur prière n'était pas inaudible, mais que Dieu entend la prière et que leur prière monte jusqu'à Dieu et est là comme dans ce parfum qui est devant le trône de Dieu. Évidemment, ça nous rappelle eh bien, l'autel des parfums qu'il y avait devant le voile dans le lieu saint, qui séparait, donc ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et cet autel des parfums donc montait devant le lieu très saint, et là de la même manière, on a des parfums qui montent devant le trône de Dieu, et associés à ces parfums sont les prières des saints, et vos prières sont associées à ces parfums de bonne odeur qui montent devant Dieu, et on comprend que prière ici c'est au sens large. Ce n'est pas prière dans le sens requête, demande, tout ce que vous avez à demander, mais c'est par rapport à toutes ces phrases qu'on a trouvées dans le début de l'Apocalypse, de gloire, d'honneur, de louange, donc d'adoration, de louange qui monte jusqu'au trône de Dieu. Et donc, même ici, dans ces moments les plus sombres, si on peut dire ça comme ça, dans ces moments difficiles où il va y avoir des fléaux, où il y a des catastrophes qui viennent avec le son de ces trompettes, eh bien, on est dans un contexte, quand toutes ces trompettes vont sonner et que des fléaux vont arriver, il y a les prières des saints qui sont là encore, l'odeur des prières des saints est assimilée avec ce qui se passe ici. Verset 5. « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. » Il se passe beaucoup de choses ici, et qui va être détaillé plus tard, verset 6, « Les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre furent brûlés, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première trompette, c'est s'en passe des affaires là. De la grêle, du feu mêlé de sang, et le tiers de la terre qui est brûlé. Verset 8. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Notez, toujours le tiers et le tiers. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux, donc amertume, le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardais et un aigle qui volait au milieu du ciel disait d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Alors comment est-ce qu'il faut comprendre ces quatre premières trompettes? On voit qu'à chaque fois qu'une trompette sonne, il y a un fléau, un malheur qui est là. Et la première question évidemment qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il s'agit ici de quelque chose de littéral ou de symbolique? Lorsqu'on parle de grêle, est-ce que c'est de la grêle au sens propre? Mais on va dire, de la grêle, c'est de la grêle. Bon, d'accord. Mais alors, quand on parle du feu mêlé de sang, ça marche comment, ça? Du feu mêlé de sang qui tombe du ciel. Est-ce qu'il faut le prendre au sens propre, en disant, oui, c'est vraiment du feu avec du sang, mais du sang de qui? Jusqu'où on va dans... Et il est dit, c'est ça. Et quand il y a cette grande montagne embrasée par le feu qui fut jeté dans la mer, bon, ben ça on arrive à comprendre, peut-être s'il y a une grosse météore qui arrive, météore ça peut être aussi gros qu'une montagne, hein, et puis quand ça arrive dans l'atmosphère, ça s'embrase avec l'effet de l'atmosphère, puis ça prend feu, bon, puis c'est jeté dans la mer, ça pourrait être une catastrophe, entre guillemets, naturelle, et peut-être propre, au sens propre, mais... Quand il est question, de la grande étoile ardente, comme un flambeau qui tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux, notez bien que là, cette fois-ci, c'est une étoile, mais qui tombe que sur les fleuves, hein, pas sur la terre et que sur les eaux. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Et à chaque fois, il y a le tiers qui arrive là. Et quand il y a ce quatrième ange, et puis cette fois-ci c'est le tiers de la lune, le tiers des étoiles, le tiers du soleil, et qui vient venir donc amener un tiers de clarté en moins. Alors certains vont interpréter ces fléaux-là d'une manière très littérale et essayer de trouver une explication pour chacun des mots et chacun des détails. Alors avec la montagne embrasée, on arrive à le faire assez facilement. Quand on est avec le feu mêlé de sang, c'est plus difficile. Quand on est avec cette étoile qui va contaminer le tiers des fleuves, ça devient plus difficile encore. Et c'est une question qu'on va se poser maintenant, mais qui est vraie pour l'ensemble de l'Apocalypse, c'est concernant la signification symbolique et celle qui est littérale. À quel moment il s'agit d'un symbole et à quel moment ce n'est pas un symbole, mais c'est mot à mot ce que ça signifie. Donc on appelle ça le sens littéral. Surtout que l'Apocalypse, par définition, et à bien des reprises, ce n'est pas simplement, comment dire, il y a bien des passages dans l'Apocalypse où Jean lui-même nous dit ça, il ne faut pas le prendre au sens propre. Quand il y a une bête qui a 10 têtes, on va dire c'est 10 montagnes. 7 têtes, on va dire c'est 7 montagnes. Et quand elle a 10 cornes, on va dire c'est 10 rois. Et donc l'Apocalypse, à plusieurs endroits, va dire quand on parle de cornes d'une bête qui a 10 cornes, les cornes, il ne faut pas comprendre juste des cornes, hein, c'est des rois. Donc il y a une valeur symbolique. On ne s'imagine pas qu'il y a une bête qui vient avec 10 cornes, mais qu'il s'agit ici d'un autre type de monstre, puisque ces cornes-là sont 10 rois. Et ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Il y a bien d'autres passages dans l'Apocalypse où on dit il se passe telle chose, mais il ne faut pas le prendre au sens propre. Il y a une portée symbolique à cette phrase, à ce mot, à ce contexte-là. Alors, si c'est vrai à certains endroits comme ça dans l'Apocalypse, est-ce que ça peut l'être aussi en ce qui concerne les trompettes? Et on comprend que parce que l'Apocalypse est d'une manière générale une portée très symbolique, on l'a vu par exemple dimanche passé avec les 144 000 où on a dit, ben là c'est symbolique, c'est pas le chiffre 144 000 ici, le fait qu'il y ait 12 000, c'est pas ici un chiffre qui va être le chiffre exact d'une recension parmi ces tribus-là, mais qu'il s'agit ici d'un chiffre qui a une portée symbolique. Et bien de la même manière, quand on lit ici l'ouverture des trompettes, on pourrait aussi rentrer dans une valeur symbolique. Et pour le reste aussi, des effets et donc faire attention après lorsqu'on fait notre interprétation et lorsqu'on veut essayer de comprendre ce que veut dire tel ou tel passage, c'est toujours se poser la question, est-ce qu'il faut que je prenne ça au sens propre ou au sens symbolique? Là, au chapitre 9, on va y arriver dans quelques minutes, on a des sauterelles qui arrivent. Est-ce que c'est des sauterelles qu'il faut prendre au sens propre ou au sens symbolique? Est-ce que ces sauterelles qui vont être un fléau, mais ça va être des vraies petites sauterelles en 1800, je ne sais plus combien, 1800, dans la, 1860, enfin, je me souviens plus de la date, mais 1800 et des poussières, il y a eu une invasion de sauterelles en Algérie, il y a eu 200 000 morts. Bon. Est-ce que c'est ce qui va se passer ici, des vraies sauterelles qui vont arriver, ou est-ce que ces sauterelles symbolisent autre chose? Et après, évidemment, il faut rester cohérent. Si on part du principe que non, c'est pas symbolique, c'est vraiment des sauterelles, non, c'est pas symbolique, c'est vraiment de la grêle, non, c'est pas symbolique, c'est vraiment une étoile qui tombe ou c'est vraiment une montagne qui est embrasée par le feu, dans ce cas-là, il faut faire attention quand on dit ici c'est symbolique, ici ça l'est pas. Ici, non, il faut pas le prendre au sens propre, il faut prendre au sens figuré et ici, il faut le prendre au sens littéral. Parce que qui vous donne le droit de choisir à quel moment c'est littéral et à quel moment c'est symbolique? C'est quand ça fait notre affaire. Hein. Et bien souvent, il y en a qui font de la théologie de cuisine comme ça. Quand ça fait leur affaire, quand ils comprennent, ils disent « Ah, ben ça c'est littéral parce que je comprends que ça fait du sens. » Puis quand ça ne fait pas de sens, on dit « ça peut être que symbolique parce que sinon ça ne veut rien dire. » Mais là où il faut se méfier, c'est que même quand ça fait du sens, ça peut être symbolique aussi. Quand Jésus raconte une parabole, la parabole fait du sens. Elle représente quelque chose qui est concret, qui est logique, mais ça reste symbolique, ça reste une image, c'est comme. Et là, de la même manière, ici on a une vision, hein, on est ici dans une vision, dans ce que Jean voit, dans cette révélation, il voit ces choses, et bien dans ce qu'il voit, et bien ça peut aussi avoir une portée symbolique. Maintenant, une autre question qu'on va se poser, c'est de dire, mais ces sept trompettes par rapport aux sept fléaux, comment ça se situe dans la chronologie? Parce qu'évidemment, on aime bien faire des tableaux et arriver à dire, bon, quand est-ce que ça arrive, ça? La grêle qui tombe sur la tête, là, avec du feu mêlé de sang, est-ce que ça risque de nous tomber dessus ou c'est déjà tombé? Non, vous êtes déjà posé la question, ça ne vous inquiète pas plus que ça? Alors là encore, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont dire, ben non, mais il y a l'ouverture des six premiers sceaux, et donc après, logiquement, l'ouverture du septième sceau, c'est les sept trompettes. Donc imaginez, les sept trompettes sont à l'intérieur de l'ouverture du septième sceau. Hein, c'est premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau, sixième sceau. Septième sceau égale première trompette, deuxième trompette, troisième trompette. Et septième trompette égale première coupe, deuxième coupe, troisième coupe. On s'amuse, hein, comme ça, c'est un petit peu des poupées russes. Là. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'autres vont dire, mais on voit une certaine analogie quand même, parce que si on compare les sceaux avec les trompettes, eh bien le premier sceau ressemble à la première trompette, et le deuxième sceau ressemble à la deuxième trompette, et les catastrophes sont à peu près similaires. Et certains vont dire, bon, ben, ça doit avoir lieu peut-être ensemble. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose non plus. Alors, cette chronologie ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut être prudent dans la chronologie ici. Le sixième sceau, le septième sceau, annonce les temps de la toute fin. Alors, c'est clair que parmi ces premières trompettes, eh bien, il pourrait y avoir, je veux dire, comment est-ce que je vais dire ça simplement? Pour dire simplement, c'est que Jean voit les choses dans un certain ordre, mais ça ne veut pas dire que les choses vont se dérouler dans l'ordre qu'il voit. Je veux dire par là que quand on a une vision, quand on visite ou quand on regarde un tableau, quand on regarde des dessins, on peut déjà regarder plusieurs planches et ensuite en regarder d'autres. On peut regarder les sept sceaux, ensuite regarder les sept trompettes, mais ce n'est pas parce qu'il voit les sept trompettes après que ça arrive après les sceaux. Et maintenant, comment ça se superpose? Ben, c'est pas parce qu'on en a sept et sept que le premier sceau égale la première trompette, que le deuxième sceau égale la deuxième trompette. Qu'il y a peut-être deux couches ici qui sont séparées, qu'il peut y avoir d'un côté eh bien, les sept sceaux, et que d'un autre côté, il peut y avoir les sept trompettes, mais que les sept trompettes ne correspondent pas aux sept sceaux, même si au niveau du temps, il peut y avoir un chevauchement. Vous me suivez? Tout ça pour dire que tout est possible au niveau des combinaisons. Et que ensuite, dans notre interprétation, comment est-ce qu'on va interpréter ces trompettes? Est-ce que ce sont des choses à venir ou est-ce que ces trompettes ont déjà commencé à sonner? Là encore, tout dépend qui est le lecteur. Mais si on demandait aux premiers chrétiens qui ont lu l'Apocalypse, pour eux, les trompettes avaient déjà sonné, avaient déjà commencé à sonner. Pour eux, ces fléaux arrivaient déjà. Et vous avez noté, enfin peut-être pas, mais qu'il y a quelque chose d'assez similaire entre les fléaux des trompettes et ce qui s'est passé en Égypte. Vous aviez noté ça? Avec les 10 plaies d'Égypte? Ça, bon, on vérifie. Première trompette, chapitre 8, verset 7. Il est dit, le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. De la grêle, ça vous rappelle rien ça? Exode, chapitre 9, verset 22. Exode 9, 22, puis on va regarder un petit peu le parallèle entre nos trompettes et l'Exode. Exode 9, 22, ça y est, j'y suis. Et quand Moïse étend la main vers le ciel, il dit, il tombe de la grêle dans tout le pays, sur les hommes, les animaux et sur toutes les herbes des champs. Et ensuite, des coups de tonnerre et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. L'Égypte, l'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs. Donc on voit que la grêle de cette première trompette était déjà un élément des plaies d'Égypte. Deuxième et troisième trompette, chapitre 8, verset 8. La deuxième trompette, il est question d'une montagne embrasée par le feu. Et la troisième trompette, il est question d'une grande étoile ardente comme un flambeau qui tombe sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Et si on regarde Exode chapitre 7, c'est bien ça, j'ai bien noté, Exode chapitre 7 verset 20. Exode 7, 20. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui était dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et tous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, et les poissons qui étaient dans les fleuves périrent. Et donc on voit qu'il y a une contamination, un péril à cause des eaux qui sont là devenues, donc qui deviennent du sang en Égypte. Et là on a le même phénomène, dans le sens où eh bien, on a de l'eau qui devient amère. Certains vont aussi parler au verset 11 de cette étoile absinthe et que l'eau devient amère en disant c'est l'événement inverse de ce qui s'est passé à Mara où justement l'eau était amère et avec l'intervention de l'Éternel, l'eau devient douce et là c'est l'effet contraire. C'est comme si l'eau douce maintenant redevenait amère avec cette étoile-là. La quatrième trompette, 8-12, eh bien le soleil fut frappé, le tiers de la lune, ainsi de suite. Et si on est dans Exode 10-21, qu'est-ce qu'on a dans Exode 10-21? Exode chapitre 10, verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. » Eh bien là, on a cette trompette qui annonce eh bien, le tiers, enfin ça devient plus obscur puisque c'est le tiers de la lune, des étoiles et du soleil. Et là, parmi ces fléaux qu'il y a eu en Égypte, il y a eu aussi les ténèbres. La cinquième trompette, donc on est dans Apocalypse 9, il est dit « Une étoile était tombée du ciel, la clé du puits de l'abîme fut donnée. » Et là, on voit qu'il y a de la fumée, qu'il y a des sauterelles sortir de la fumée et se répandir sur la terre. Et si on va dans Exode 10, 12, on a là aussi, eh bien, ce même genre d'événement où il est question des sauterelles qui montent sur le pays d'Égypte et qui ravagent le pays. Donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre ici que les fléaux qui se produisent au son de ces trompettes-là, eh bien, nous rappellent ce qui s'est passé au pays d'Égypte. Mais on comprend que ce qui s'est passé au pays d'Égypte avait un but. Les 10 plaies d'Égypte ne sont pas arrivées pour rien, mais avaient pour but d'amener Pharaon à fléchir et à laisser partir le peuple. Et de la même manière, les trompettes ici ne sonnent pas pour rien. Et le parallèle ici nous amène à comprendre qu'il y a un sens à tout cela. Et on va continuer à lire l'ouverture des autres trompettes parce que ça va être important. Peut-être entre parenthèses, le verset 13 nous dit qu'il y a un aigle qui vole. Après l'ouverture des 4 premières trompettes, il en reste 3 qui doivent sonner. Il y a un aigle qui vient dire « malheur, malheur, malheur » qui annonce 3 malheurs qui correspondent aux 3 dernières trompette. Alors, qui est cet aigle-là? L'aigle souvent annonce le malheur dans l'Ancien Testament. Certains vont dire, ben, logiquement, ça devrait être l'un de ces 4 êtres vivants qui ressemblait à un aigle. Hein, il en était question dans Apocalypse chapitre 4. En tout cas, c'est une créature céleste ici qui insiste sur le fait que après ces 4 premières trompettes, il y a encore un malheur qui arrive. Apocalypse 9, 1. Le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, c'est celle qui est le plus développée, celle-là, et il monta du puits une fumée comme de la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc ça commence à être des sauterelles bizarres. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, c'est encore plus bizarre pour des sauterelles, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et il en était déjà question par rapport au sceau, que les malheurs ici, et quelque part nous, ça vient nous faire dire « ouf ». Enfin, ça dépend. Si vous avez le sceau de Dieu sur votre front ou pas. Mais si vous êtes scellé, que vous avez le sceau de Dieu, ça ne nous concerne plus. Est-ce que vous me suivez? Puisque ces sauterelles-là ne faisaient pas de mal à l'herbe, à aucune verdure, à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Bah, finalement, si on a le sceau de Dieu sur notre front, on n'a pas à avoir peur. Mais si on ne l'a pas, on a raison d'avoir peur. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. J'ouvre une parenthèse par rapport à ce 5 mois. Là encore, est-ce que c'est un 5 mois au sens littéral? Et il y a toujours quelqu'un qui dira, je suis allé les vérifier dans une encyclopédie, et une sauterelle, ça vit 5 mois, donc c'est logique que ça ne dure que 5 mois, puisque la vraie sauterelle ne vit que 5 mois. D'autres vont dire, le chiffre 5, théologiquement parlant, a une portée ici, qui pourrait, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des chiffres 5, et quand on regarde un petit peu tous les 5 qui sont utilisés, il y en a qui vont dire, ça représente plus, eh bien, 5 voudrait dire, quelques-uns ou quelques-unes, quelqu'unes. Et donc, ça nous parlerait d'une durée qui est limitée, puisque 5 mois, c'est une durée limitée, mais indéfinie. Une durée de, on ne sait pas trop combien, 5 mois, le 5 voudrait dire de quelque temps, mais un temps limité. Donc, ce qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que le pouvoir de ces sauterelles-là n'est pas indéfini, mais s'arrête dans le temps à un moment donné, mais que ces 5 mois, symboliquement, ben, représentent un temps qui va s'arrêter à un moment donné, mais on n'en sait pas plus sur est-ce que c'est 5 mois de 30 jours, est-ce que c'est 5 années, est-ce que c'est 4, 3, 2, ça peut être toutes sortes de temps. théologiquement parlant, ça, on pourrait considérer que ça veut dire que ça veut dire qu'il y a, c'est donc un temps limité, mais dont, qui n'est pas défini. On ne sait pas exactement combien, ce que ça représente. Donc j'étais où là, voilà. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Mais il ne meurt pas. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Je ne sais pas si vous imaginez la sauterelle qui ressemble au scorpion, mais maintenant la sauterelle scorpion ressemble à un cheval de guerre. Ils avaient sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme, une sauterelle, qui ressemble à un scorpion comme un cheval de guerre avec une tête d'homme. Vous me ferez le dessin hein, tout à l'heure, qu'on voit ce que ça donne. Elles avaient des cheveux, bon, des sauterelles avec des cheveux, d'accord, comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Alors, vous rajoutez à votre sauterelle des cheveux de femme et des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et certains se sont dit, attendez, bon sang, mais c'est bien sûr, Jean a vu un hélicoptère. Ben oui, mais imaginez quelqu'un de l'ancien temps qui voit un hélicoptère. Il n'a jamais vu ça, un hélicoptère. Non? Comment décrire un hélicoptère lorsqu'on ne l'a jamais vu? Un hélicoptère qui est capable d'avoir le pic du scorpion, ah, il envoie un missile. Un hélicoptère qui, quand il bat des ailes, fait autant de bruit qu'un char de Ben Hur. Ça fait du bruit, un hélicoptère, hein? Un hélicoptère qui a une face d'homme, bon, ça c'est le pilote. Non? Une sauterelle qui a des cheveux, bon, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Qui a une cuirasse, bon, ben, ça c'est le métal qu'il y a. Bon. Est-ce que Jean a vu des vraies sauterelles? En tout cas, elles sont bizarres, ces sauterelles-là. Est-ce que c'est des hélicoptères? J'en suis pas sûr. Mais vous comprenez que quand on commence à accepter qu'ici, ce n'est pas des vraies sauterelles, mais que c'est symbolique, eh bien, on peut mettre derrière ce symbole beaucoup de choses. Et dans l'histoire, il y en a qui vont interpréter ces sauterelles en disant, bon, ben là, c'est une armée, c'est une force, c'est une puissance. Certains vont dire, ben, c'est démoniaque, c'est des démons ici qui sortent de l'abîme. D'autres vont dire, et par exemple Luther va dire que ce sont les Ariens, donc de l'Est, qui vont venir envahir l'Europe. Ça, c'était Luther. Pour lui, les sauterelles, c'était les Ariens. Pour un autre théologien, Bengel, lui, pour lui, c'était les Perses. C'est les Perses qui allaient arriver. Pour d'autres, c'était les Calvinistes, ces sauterelles-là. Ça commençait déjà à des conflits de religion. Pour d'autres, c'était Napoléon et ses armées. Pour d'autres encore, c'était la pensée critique de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui a amené la Révolution française, cette pensée qui commençait à mettre en question la Bible. C'est ça, ces sauterelles. Pour d'autres encore, et chacun a une théorie par rapport à ces sauterelles. Et on rigole de ceux qui avaient des théories dans le temps. On va dire, quand même là, c'est pas sérieux là. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont tout autant pas sérieux. Et chacun a sa propre idée. Et on va dire, mais alors c'est quoi la vraie affaire? C'est quoi vraiment ce que signifient ces sauterelles-là? Déjà, au début de cette cinquième trompette, il est dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Déjà, c'est quoi cette étoile qui est tombée du ciel sur la terre? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette étoile qui tombe du ciel sur la terre? Non? Dans Luc 10, 18, par exemple, à un moment, Jésus a vu quelque chose qui ressemble à ça. Non? Ah? Est-ce que c'est possible que Jésus ait eu la même vision? Luc 10, 18. Voilà ce que Jésus lui-même dit. Il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et certains vont dire, cette étoile qui tombe du ciel, c'est Satan. C'est une interprétation, c'est ce que vont dire certains, en disant, bon, il a les clés de l'abîme, et des clés de l'abîme va chercher toute une force, une puissance qui sort en fumée comme des sauterelles qui viennent ravager, mais qui n'ont pas le pouvoir de tuer, donc le pouvoir est limité, comme la piqûre du scorpion, mais qui n'amène pas à la mort. Et certains vont dire, ben, ces sauterelles qui sortent sont donc des forces démoniaques ici. Et avec Satan, on va dire, oui, mais au niveau chronologique, là, quand Satan est tombé du ciel, c'était quand ça? En tout cas, Jésus, lui, il le voit au moment de l'évangile. Pourtant, Satan était déchu auparavant. Et là, Jean le voit quelque part à cette cinquième trompette. Donc comprenez que la vision qu'on peut avoir correspond pas forcément à la chronologie des événements, si on veut mettre ça sur une ligne du temps. Maintenant, est-ce que cet ange qui tombe, c'est Satan ou pas? Je vais pas vous, je dirais vraisemblablement, mais on a le droit de le croire autrement. Et quelque part, ce qui est formidable avec l'Apocalypse, c'est, je vais peut-être conclure avec ça, ou peut-être avant d'arriver là, arriver à la fin dans chapitre 9. Donc il est dit, on va finir avec notre sauterelle qui a des cheveux et des dents de lion. On est au verset 10. « Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme. Hein, » c'est pour ça que l'ange de l'abîme, il y en a qui veut dire, bon, ça fait référence au diable ici. « Nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. » L'aigle avait dit « malheur, malheur, malheur ». Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Et on se souvient que quand Moïse a fait le tabernacle, il y avait 4 cornes qui étaient là sur cet autel qui était donc dans cette cour sur laquelle avaient lieu les sacrifices. Donc ici, on a cette même analogie, c'est le même genre d'autel qui est devant le trône de Dieu. Et il disait au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. » Alors ça c'est bien, mais on ne sait pas quelle heure, quel jour, quel mois et quelle année. Mais en tout cas, à un moment précis, eh bien, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Là encore, on a tiers, 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 tiers. Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre exact? Pas forcément. Certains vont le prendre au sens littéral, d'autres vont dire non, c'est plus symbolique ici. C'est pour montrer que le tiers, ça représente déjà une quantité importante. Mais il en reste, c'est ça aussi qui est important à noter. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, c'est-à-dire 2 myriades, on pourrait traduire 200 millions, ça en fait. Hein. Et j'entendis le nombre, et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses. Alors, si déjà il y avait 4 chevaux, là il y en a 200 millions, on voit que ça s'amplifie. Ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, donc il y a du feu, du soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche ils sortaient du feu et de la fumée et du soufre. On dirait un char d'assaut qui lance, non? Non? C'est pas un char d'assaut là? Les chevaux qui ont des têtes qui sortent du feu et du soufre, un lance-flamme ou... Enfin bon, bref. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Donc essayez de dessiner tout ça. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Et je pense que là, c'est la clé, mais on va garder le verset 20 pour plus tard. Il est question de feu et de soufre. Dans Ézéchiel, et on a déjà noté que l'Apocalypse et Ézéchiel sont quand même, ont un langage qui est assez similaire, et que l'Apocalypse n'utilise pas des mots nouveaux et ne va pas utiliser des concepts que personne ne comprenait, mais va parler de concepts et de symboles prophétiques qui étaient déjà connus par les lecteurs qui avaient déjà lu Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 38, verset 14, où là, il est dit par exemple, « C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog. » Notez bien Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras, alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de très nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Donc on retrouve ici une multitude de chevaux comme on avait dans Apocalypse 9, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, et beaucoup mettent en connexion cette prophétie d'Ézéchiel avec ce qui se passe pour cette septième trompette de l'Apocalypse chapitre 9. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous les yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et là encore, parce qu'on est curieux, on se dit, c'est qui ça, Gog? Et on va dire, bon, ben Gog, vraisemblablement, ça vient du nord, c'est comme ça que ça se situe dans la topographie de l'époque. Alors, on voit l'ennemi qui vient du nord, et en connectant Gog avec Apocalypse chapitre 9, puisqu'on a la multitude des chevaux qui est là et qui viennent amener un péril en Israël, et on a le feu, le soufre qui est présent là aussi et qui nous parle de jugement, et puis ces chevaux qui sont là. Alors, on essaye toujours d'essayer de connecter ça avec notre histoire. Et là encore, l'histoire de l'Église nous montre qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations. À un moment donné, c'était les Chinois. Et Gog, c'était les Chinois, si vous vous souvenez de ça. C'est les Chinois qui allaient attaquer du Nord. À un autre moment donné, c'était les Russes. Et c'est Gog, c'était forcément les Russes. Et donc, Apocalypse 9, avec cette multitude qui arrive, c'est les Russes qui attaquent. À un autre moment, on va dire, c'est les Arabes. Parce que, bon, maintenant, ça semble un peu plus moderne ou à la mode de dire que ça peut être que les Arabes qui attaquent maintenant. Et comprenez qu'à chaque fois, on a essayé quelque part de prendre le texte de l'Apocalypse et de le calquer à notre histoire. Et je regarde le temps, il me reste 10 minutes, alors je vais quand même finir le chapitre 9, verset 20. Et je garde ce que je voulais dire pour tout à l'heure, je vais vous le dire, c'est promis. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Et ce verset 20 et 21 est capital. C'est la clé. Cette phrase du verset 20 et 21 nous permet de tout comprendre. Et tout devient évident. De la même manière que les 10 plaies d'Égypte avaient pour but de faire capituler Pharaon pour qu'il laisse aller le peuple de Dieu sortir de l'esclavage et aller adorer Dieu dans le désert, et bien de la même manière ici, le son de ces 7 trompettes, c'est pas parce que Dieu est méchant, c'est pas parce qu'il veut le malheur sur la terre, c'est pas parce qu'il veut qu'il y ait ici de la souffrance, mais c'est dans un but précis, afin qu'ils se repentent. Mais la triste nouvelle, c'est qu'ils ne se repentent pas d'adorer des démons, des idoles, d'argent, d'airain, ainsi de suite. Et on comprend, et vous avez bien noté, j'ai insisté dessus tout à l'heure, que tous ces fléaux sont pour les hommes qui n'ont pas leur nom qui n'ont pas le nom de Dieu inscrit sur leur front, qui n'ont pas le sceau de Dieu, on avait vu que c'était le nom de l'agneau, qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et ces fléaux ont pour but d'amener à la repentance et de se détourner de ces mauvaises voies. Et ça nous rappelle ce que l'Ancien Testament pouvait dire, que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente de ses mauvaises voies. Et ici, ces fléaux n'ont pas pour but d'amener la ruine, mais la restauration, d'amener le méchant à se repentir. Il y a eu déjà le même discours qui a été fait à l'Église cette fois-ci, dans les sept épîtres aux sept églises, où on retrouve souvent le mot « repens-toi ». Parce que les avertissements qui sont donnés dans ces sept épîtres ont pour but d'amener les églises à se repentir pour retrouver le premier amour et retrouver en fait et garder le chandelier au milieu de leur église. Et là, de la même manière, ces fléaux qui concernent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front ont pour but d'amener à la repentance. Mais malheureusement, ils ne se repentent pas. Et c'est un peu la même chose qui s'est passée avec Pharaon, et c'est pour ça que c'est important de faire la connexion avec les 10 plaies d'Égypte. La première plaie n'a pas suffi pour que Pharaon se repente. Il faudra la deuxième, il faudra la troisième, il faudra la quatrième. Et il y a comme une escalade. Et là, c'est ce qui se passe encore, il va y avoir une escalade. Alors, n'oubliez pas que ça concerne ceux dont le sceau de Dieu n'est pas sur le front. Et la question qu'on doit se poser à nous, si ce texte nous impressionne ou nous fait peur, c'est de dire, est-ce que le sceau de Dieu est sur mon front? Est-ce que je lui appartiens? Si vous lui appartenez, les sauterelles ne vous attaqueront pas. C'est comme ça que c'est marqué, non? Bon, ouf. Non, si tu n'es pas sûr d'avoir le sceau de Dieu, c'est peut-être le temps d'y réfléchir et de lui demander sa marque. Maintenant, concernant la chronologie, est-ce que les trompettes ont déjà sonné? Certains disent oui, certains disent non. Par exemple, l'absinthe. L'absinthe, certains vont dire, ah, en russe, absinthe. Il y en a qui il y a toujours des gens qui trouvent des connexions, je ne sais pas comment ils font ça, mais absinthe en russe, Tchernobyl. Vous avez déjà entendu ça? Donc, Tchernobyl, ça a déjà explosé. Hein. Vous vous souvenez, cette centrale nucléaire qui a explosé en Ukraine ou en Russie? Je ne pense pas que c'était en Russie. Qui a explosé, en tout cas dans l'Est, là-bas. Et puis, ça fait beaucoup de dégâts. Mais alors, si cette absinthe, c'est Tchernobyl, ça veut dire que la trompette a déjà sonné? Ou qu'elle peut sonner encore? Et là, je vais vous introduire un concept qu'on développera certainement un peu plus tard aussi dans notre lecture, c'est de vous dire que l'Apocalypse n'est pas un livre comme les autres. Mais c'est un livre qui est écrit dans un langage mystérieux, hein, faut le reconnaître, c'est pas clair, 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 mais si ça a été écrit comme ça, c'est volontaire. Et si le langage est symbolique et volontairement mystérieux, c'est pour justement autoriser plusieurs couches d'interprétation. Ou plusieurs, c'est comme si on peut mettre dans la forme plusieurs pièces différentes. Et quelque part, je dirais, on a raison. Je dirais, tout le monde a raison. Quand quelqu'un dit « Tchernobyl, c'est l'absinthe », il a raison. Mais quand quelqu'un dira, mais telle autre catastrophe, c'est cette trompette, il a raison. Quand quelqu'un d'autre dira, ben, c'est sauterelle, c'était telle armée qui envahit, il a raison. Et puis quand d'autres diront, mais c'était ça aussi, certainement. Comprenez que la prophétie ici n'annonce pas forcément une chose précise, et il n'y aura que celle-là et rien d'autre, mais annonce plus un principe. Et à chaque fois qu'un événement de notre quotidien coïncide ou correspond avec ce principe-là, on a comme raison de l'associer. On n'est pas arrivé à la tour de Babylone qui s'écroule, mais on a par exemple un peu plus tard la tour de Babylone qui s'écroule et puis le commerce s'arrête. Et certains vont dire, mais ça, c'est le World Trade Center. avec la tour qui s'écroule. C'est le tour de New York, et puis c'est ça. Et quelque part, oui, on a raison de le lire ainsi. Mais ce n'est pas que ça. C'est ça, mais ça peut être autre chose, ou ça peut être autre chose. Ou, j'ouvre une parenthèse, puis c'est le teaser pour les prochaines fois, à un moment donné, on va arriver à parler de la bête, et puis on va parler de l'Antichrist, parce que c'est marqué, on va rentrer dans ces textes-là. Et quand il s'agit d'identifier cet Antichrist, on va dire, oui, mais il y en a qui disent que c'est Napoléon. Il y en a d'autres qui disent que c'était Hitler. Il y en a d'autres qui disent que c'est le pape. Il y en a d'autres qui disent que c'est telle personne, ou telle, ou c'est Pol Pot. Il y en a d'autres qui disent non, c'est en Corée du Nord. Il y en a d'autres qui disent c'est à tel endroit, c'est à tel endroit. Et j'allais dire, tout le monde a raison. Dans le sens où ces dictateurs, et particulièrement ceux qui ont fait des choses horribles, et qui ont massacré, qui ont violenté, qui ont persécuté l'Église ou le peuple juif, eh bien, sont dans la mentalité, dans le principe de cet Antichrist. Et quand on voit dans ces personnes-là l'image de cette bête, on a raison. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont ça, mais cette image, comment dire, la description est là pour qu'elle puisse fitter, si je peux dire ainsi, à nos personnages. Les premiers chrétiens de l'époque, ils n'ont pas vu Hitler, ils ne savent même pas qu'il existait lui. Ils ont vu Néron. Et pour eux, c'était clair que l'empereur romain, c'était l'Antichrist. Et ils avaient raison de le croire. Et quand plus tard, on identifie un autre personnage, on a raison de le croire. Parce que c'est ce que représente le personnage. Et ce n'est pas l'individu en lui-même, mais c'est la pensée de l'Antichrist. Hein. On revoit ça avec les épîtres de Jean, mais on aura l'occasion de développer ça quand on arrive quand on arrivera à parler de l'Antichrist et puis qu'on va résoudre le problème du 666. Bon, en tout cas, on n'en est pas là encore. Il faut de l'intelligence pour ça, hein, c'est marqué. Mais je ne sais pas si on en aura assez. Mais la porte que j'ai ouverte ce soir, et peut-être on va juste rester là-dessus, c'est déjà de réfléchir et voir si on accepte ce principe-là. En tout cas, pour ma part, je l'accepte, parce que ça vient enlever bien des tensions. C'est que bien des passages de l'Apocalypse, que ce soit des sceaux ou des trompettes ou des coupes ou d'autres événements, il y en a qui sont clairement uniques. C'est quelque chose qui se produit une fois. Hein, quand, par exemple, Satan est enchaîné, ça se produit une fois. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir se produire. Mais il y a des choses qui sont uniques. Et il y en a d'autres qui sont là plus sous forme de modèle et que ce modèle peut correspondre à notre réalité, à nous. Et ça, ça nous dit quoi? Et c'est pour ça que l'Apocalypse est un livre qui suscite autant d'intérêt, parce que c'est comme un livre qui est toujours d'actualité. Il y a 2000 ans, il était d'actualité. Et n'oubliez jamais ça, les premiers chrétiens qui ont lu l'Apocalypse se sont dit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas dit, c'est ce qui va se passer il y a 2000 ans. Ils ont dit, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et les premiers chrétiens se sont dit, c'est juste ce qu'on est en train de vivre. Et puis peut-être qu'au Moyen-Âge, ou peut-être qu'un peu plus tard, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui disent, mais c'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant. Et nous, aujourd'hui, on est en train de dire ça. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que l'Apocalypse nous montre ces différentes formes, sachant que ce qu'il faut retenir, c'est pas le contenu des fléaux et ce que sont exactement chaque catastrophe, les catastrophes, chaque période a ses catastrophes. Il y a eu des famines, il y a eu des raz-de-marée, il y a eu des tsunamis, toutes sortes de choses. Et on a raison de voir dans les tremblements de terre, dans les tsunamis, dans les catastrophes aériennes, ou dans ceci ou dans cela, bah, des événements qui correspondent à ce qui est écrit dans l'Apocalypse. On a raison de voir ça. Ça ne veut pas dire que c'est que ça. Ça veut dire que si on voit, par exemple, dans l'absinthe de Tchernobyl, ça ne veut pas dire que c'est fini, on ne sera plus embêté avec ça. Il y aura peut-être un autre événement qui va correspondre au même modèle qui va se produire encore. Mais que l'Apocalypse n'est pas là pour nous montrer en détail tous les événements qui vont arriver, mais nous montre que dans le principe de ces catastrophes, il y a une bonne nouvelle à la fin. Et que si ces catastrophes se produisent, et on a le verset 20 et 21 qui sont la clé de ce soir, ils avaient pour but d'amener à la repentance, afin qu'ils s'éloignent de l'idolâtrie, du culte des démons, de l'idolâtrie des fausses idoles et qu'ils s'approchent de Dieu. Et que ces fléaux, que cette souffrance, que ces famines, que ces guerres, que ces sauterelles et que tous ces fléaux qui interviennent ici ont pour seul but d'amener à la repentance. Alors, si nous avons le sceau de Dieu sur notre front, on est déjà passé par la repentance. Et on n'a pas besoin d'être broyé pour passer par là. Et vous avez noté que ça ne concerne que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Alors, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, dimanche prochain, ou l'année prochaine, on continue avec le chapitre... Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Après le chapitre 9, c'est le chapitre 10. On fera le chapitre 10 et le chapitre 11, le petit livre, et puis les deux témoins de l'Apocalypse. Et on se posera la question, est-ce que c'est Élie et Moïse, ces deux témoins de l'Apocalypse? Enfin, on en parlera dimanche prochain. Bon retour à chacun. Et souvenez-vous, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Ça finit bien. Amen. Bon retour à chacun.